Ici Micha Tanganyika et voici votre bulletin d'information locale et régionale de CAGA FM. En juillet, le Premier ministre Marc Carney a rencontré des centaines de chefs des Premières Nations du Canada à deux reprises pour entendre leurs inquiétudes concernant la loi C5 visant à bâtir le Canada. Plusieurs d'entre eux ont quitté la table de discussion avant la fin de l'événement en reprochant un manque d'écoute de la part du gouvernement fédéral. La nouvelle loi sur les grands projets vise à accélérer l'approbation des projets fédéraux d'intérêt national tout en renforçant la souveraineté et l'unité de l'économie canadienne. Marc Carney a promis au chef qu'il doublerait le montant du programme de garantie de prêt pour les autochtones, qui passe donc à 10 milliards de dollars. La députée de Pontiac-Itigan-Zibi, Sophie Châtel, précise pourquoi il est important pour Ottawa de consulter les Premières Nations.
L'objectif à la fois des autochtones et non autochtones en ce moment, alors qu'on fait face à une situation difficile avec nos voisins du Sud, c'est de construire ensemble une économie canadienne forte. Alors, on a besoin de toute l'énergie des peuples qui constituent le Canada, des Canadiens français, Canadiens anglais, des allophones et des peuples autochtones, évidemment.
Après l'allocution du Premier ministre, les médias ont été expulsés de la rencontre. La chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse-Nepinak, a pourtant fait valoir son désir de s'exprimer devant la presse. La députée fédérale explique qu'il s'agit d'un processus normal dans le cadre de négociations entre deux parties.
Le protocole est qu'il y a des discussions en public, il y a des déclarations. Ensuite, il y a des discussions en privé entre le premier ministre, le ministre des provinces ou les représentants des peuples autochtones. Il y a des discussions en privé, des discussions de travail. Et après ça, il y a des déclarations, pas juste au Canada, mais partout dans le monde. C'est comme ça que ça fonctionne.
Ottawa affirme que ces sommets seront organisés tant qu'ils seront nécessaires. Le réservoir Baskatong est victime de son succès. Selon la directrice générale de l'aire faunique communautaire Baskatong, le doré se porte relativement bien, mais des signes laissent croire que le cheptel est victime de surpêche. Si les chiffres préliminaires de l'opération de pêche expérimentale menée en 2024 se confirment, des actions vont devoir être prises, croit Chloé Tellier. En 2024, près de 85 000 dorés auraient été pêchés au réservoir Baskatong et dans les lacs Piscatocine, Kokanagog, Caméra, Duchesne et Georges.
On pense qu'il y a environ 75 000 dorés qui ont été prélevés en 2024 pour le secteur du réservoir. Puis on parle de 9 000 kecs pour les secteurs du 5 lacs, ce qui est énorme. Le Baskatong ne peut pas continuer plusieurs années avec un taux aussi élevé. Si vous voulez que je vous compare, on parle en 2018, quand on a fait les pêches expérimentales, on parlait de 41 000 au lieu de 75 000 prélèvements. En 2013, on parlait de 34 000. Donc, ça va énormément en augmentant.
Depuis 1998, des initiatives comme l'ensemencement ont été mises en place après la surpêche observée dans les années 90.
C'est pas comme un lac à truites. Le but de l'ensemencement, c'était de donner un coup de pouce au Baskatong, parce que dans les années 90, il y a vraiment eu de l'abus. Mais c'est pas juste l'ensemencement qu'il y a eu. Il y a eu la mise en place de patrouilleurs, il y a eu la mise en place de réglementations, de gammes de taille. Il y a eu l'arrivée ensuite de ça des sanctuaires. Donc c'est tout l'ensemble qui a permis au Baskatong de se relever un petit peu de sa surpêche qu'il y a eu dans les années 90.
Même si rien n'est impossible, la directrice générale de l'AFC Baskatong pense qu'il est très peu probable que du doré soit à nouveau ensemencé dans le réservoir comme il l'a été jusqu'en 2016. La solution pourrait passer par exemple par une diminution du seuil de prélèvement. Dans tous les cas, il faudra sans doute trouver un juste milieu pour assurer la pérennité du cheptel en évitant de nuire aux pêcheurs et à l'économie régionale.
Présentement, je pense qu'on a atteint un seuil de prélèvement qui est un peu trop grand. Il va falloir essayer de le diminuer. Est-ce que ça va être en diminuant le quota, donc passer de 6 à 3? Est-ce que ça va être de diminuer la zone de conservation, 37-53, si c'est possible? Est-ce que ça va être d'augmenter le prix des autorisations, mais c'est plate? Fait que ça va être de trouver des actions qui vont avoir le moins grand effet sur la population, le facteur économique aussi du Baskatong qui est toujours à prendre en compte. Il y a des pourvoyeurs, il y a des campeurs, ça rapporte énormément à la région.
Les chiffres finaux de la pêche expérimentale de 2024 au réservoir Baskatong ne devraient pas être connus avant cet automne. Et en terminant, le bureau du coroner a lancé une nouvelle plateforme numérique qui permettra l'identification de personnes décédées qui n'ont jamais pu être identifiées auparavant. Cette initiative a lieu dans le cadre du plan de modernisation du bureau du coroner. La plateforme est une banque de données de description physique des défunts accessible au public. En consultant la plateforme, si les gens remarquent des similitudes entre un proche disparu et un défunt répertorié, ils sont invités à contacter le bureau du coroner. La coroner Karine Spénard en dit davantage sur le fonctionnement de la plateforme en ligne.
Les gens peuvent aller sur l'outil, sélectionner des indices, voire chercher par mots-clés et avoir, par exemple, cherché un homme qui aurait un tatouage de rose sur la hanche droite et on aurait les personnes qu'on a retrouvées décédées et pour lesquelles on cherche l'identité qui aurait ces caractéristiques-là. Qui pourrait permettre aux proches puis à l'entourage d'une personne disparue de nous aider à l'identifier formellement puis à leur rendre leur nom.
Dans les 10 dernières années, le nombre de décès nécessitant l'intervention d'un coroner a augmenté de 70% en raison du vieillissement de la population. Cette réalité contraint le bureau du coroner à mettre à jour son système afin d'augmenter son efficacité. Le coroner en chef, Renaud Bernier, explique qu'une partie de cette modernisation passe par la numérisation.
C'est un plan qui a une douzaine d'actions structurantes là, qui visent à revoir nos façons de faire pour mieux outiller nos coronaires et être plus efficaces au bénéfice de la population. On est en train de numériser tous nos processus à l'interne pour diminuer le recours au papier et éliminer certaines tâches manuelles.
Au Québec, entre 500 et 600 défunts n'ont toujours pas été identifiés. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information local et régional de CAGA FF.